Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis, bonjour à tous.
Dans un instant, la Formule 1, les essais d'avant-saison débutent demain à Barcelone. Vous entendrez longuement le patron de Renault, Cyril Abitbol. Il nous a accordé dans la semaine un entretien exclusif. Au programme également, le rallye de Suède. Il vient tout juste de se terminer. Nous serons avec Stéphane Sarrazin pour en parler. Et puis à 13h45, Radio Paddock avec notamment la moto. Vous entendrez le français de KTM, Johan Zarco. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. Bienvenue dans Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Juste avant la F1, Jean-Luc, il y a des directs en cours dans ce début d'après-midi. À commencer par le rugby, la 16e journée de Top 14, Grenoble reçoit La Rochelle. Salut Jérémy Donzet.
Salut Louis, rebonjour à tous. Et tu arrives bien, Louis, avec le deuxième essai Rochelais. Il est signé cette fois-ci Fafili Levavé qui fait sa première apparition sous le maillot Rochelais aujourd'hui. 34e minute de jeu, La Rochelle qui revient à égalité, 12 partout. Il y avait eu 4 pénalités de Gaëtan Germain côté grenoblois et donc deux essais, celui de Kerr Barlow et donc celui de Levavé pour La Rochelle. La transformation à suivre pour Aya West, 25 mètres à droite des poteaux grenoblois, et on assiste à un très bon match de rugby, en tout cas beaucoup de jeu, beaucoup d'intensité des deux côtés. Pour l'instant 12 partout avant la transformation après 35 minutes de jeu.
16e journée de Top 14 qui se poursuivra cet après-midi et qui se conclura à 16h50 par le choc entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. En cours également du foot, la 25e journée de Ligue 2, Sochaux accueille Metz. Salut Sébastien Ruffet.
Salut tout le monde, Stade Bonal baigné de soleil, 14-15 degrés, franchement il fait très très bon et on est venu en plus en famille, il y a du monde dans ce Stade Bonal, peut-être la plus belle affluence de l'année pour l'instant, puisqu'on vient profiter de ce beau temps et puis de cette belle affiche face au 5e de Ligue 2, les Lensois qui vont vouloir rester dans cette position là de barragiste pour l'instant, en espérant évidemment aller un petit peu au-dessus, et des Sochaliens qui eux sont 17e et qui en cas de victoire prendraient vraiment une grosse bouffée d'oxygène par rapport à la zone de relégation, donc ça leur ferait du bien de remporter ce match. Et à noter par rapport à l'ambiance, que le retour de la tribune Nord, ils étaient en grève depuis des mois contre l'organisation basque Basconia qui gérait le sportif et qui a été un petit peu dégagé cet hiver par le président Monsieur Lee. Donc voilà, ils font leur retour et ça donne forcément une belle ambiance dans un beau stade sous le soleil, 0-0 toujours après 7 minutes de jeu entre Sochaux et Lens.
Merci Sébastien, à tout à l'heure. C'est donc demain, Jean-Luc, que et les F1 2019 rouleront pour la première fois. Ça sera à Barcelone, théâtre habituel des essais d'avant-saison, 2 semaines pour se roder avant de filer en Australie pour le premier Grand Prix. Comme les années précédentes, une équipe française sur la grille, c'est Renault, ambitieuse et qui a désormais les moyens de l'être, avec un duo de pilotes prometteurs composé de Nico Hülkenberg et de Daniel Ricciardo. Dans un instant, vous entendrez la première partie de l'entretien que le patron Cyril Abitbol nous a accordé. Mais d'abord, Jean-Luc, un mot de cette recrue, Daniel Ricciardo, transfuge de Red Bull. Est-ce qu'il a vraiment la capacité, le profil pour faire passer un cap à Renault?
Écoute, je le crois franchement, parce que d'abord Ricciardo, c'est une personnalité, je vais commencer par là, hors de la piste, on le sait, c'est un type qui a la banane tout le temps, qui est accessible, qui est positif, on l'a rarement entendu critiquer, même dans les... Bon, là il y a un petit bémol, je vais y revenir, à propos de l'accrochage avec Verstappen l'an dernier, c'était à Bakou, on s'en souvient, et d'ailleurs il a dit que ça avait pesé, avec plein d'autres choses, dans sa décision de quitter finalement cette équipe Red Bull pour venir chez Renault. Donc je clôt avec la personnalité, c'est un type accessible, c'est un type qui collabore très très bien avec les ingénieurs, avec les équipes techniques, qui sait rendre la balle et renvoyer la balle quand il a des succès. Bref, c'est quelque part la recrue idéale. Maintenant, sur le terrain, évidemment, on va me dire il n'est pas champion du monde, il ne l'a pas été, mais il avait le potentiel. On rappelle quand même qu'il a posé des problèmes à Vettel lorsqu'il est arrivé effectivement chez Red Bull. Il est un peu desservi par le fait qu'il est presque trop sympa, je dirais, parce que c'est vrai que parfois la Formule 1 préfère les ombrageux, les tristes, les sinistres, voire les méchants. Mais lui, sur la piste, c'est un méchant. Il n'a pas pratiquement d'équivalent en termes de finisseur avec le matériel dont il dispose. C'est quelqu'un qui est très solide en course. Et oui, je réponds à ta question, je me mouille. Je pense qu'il a le capital pour fédérer totalement cette équipe Renault derrière lui. C'est déjà un peu le cas. Il a rendu visite des deux côtés à Enstone et à Viry-Châtillon. Il a été accueilli presque, je vais pas dire comme le sauveur, parce qu'il y a Nico Hülkenberg à côté qui est une belle référence, mais je pense que là, Nico Hülkenberg, c'est un vrai examen de passage, parce qu'on peut être certain d'une chose, c'est que Ricardo va tirer le meilleur de la monoplace dont il va disposer.
Et précisément, c'est Daniel Ricardo que Cyril Abitbol évoque dans l'entretien réalisé cette semaine par Lucas Vinois. Écoutez, on en parle juste après.
Bon Cyril, vous avez réalisé le transfert de l'année 2018 en attirant dans vos rangs Daniel Ricciardo. Première question, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé chez Renault, en tout cas, depuis son arrivée?
Bon, ça reste un petit peu tôt, hein, parce qu'on n'est qu'en février, il n'a pas encore vraiment pu tester la voiture. Red Bull nous l'avait interdit aux essais post-season à Abu Dhabi l'année dernière. Donc difficile de dire qu'il a une contribution directement technique. En revanche, tous les aspects soft, humain, motivation, fierté, tout ça, je veux dire, c'est absolument indéniable. On a eu un hiver studieux, on a un hiver très concentré, notamment on a beaucoup poussé sur les organisations, les hommes, hein, avant de pousser sur les machines, Aviry et Enstone. À l'heure où on parle, la voiture n'est pas encore complètement prête. Pendant l'hiver, on a travaillé les samedis ici à Viry-Châtillon. Toutes ces décisions, qui sont des décisions parfois qui peuvent faire un petit peu grincer des dents, elles n'ont absolument pas été contestées. Une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas été contestées, c'est que les 1000-1200 personnes que l'on a qui composent cette équipe de Renault F1, elles ont à cœur de donner la meilleure voiture possible à ce Daniel et à Nico aussi.
Comment est-ce que vous avez fait pour le convaincre, lui qui rêve d'être champion du monde? Pour l'instant, Renault n'est pas en mesure d'être champion du monde. Comment vous avez fait pour l'attirer dans vos rangs, justement, un pilote de la trempe de Daniel Ricciardo?
Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a sa propre dynamique personnelle, et ça, nous, on n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Il a une situation avec Red Bull. Je pense qu'il avait des frustrations dans cette équipe qu'il a vu naître, grandir. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il avait besoin de s'émanciper. Bon, ça, c'est plutôt son parcours à lui. Nous, de notre côté, je pense que simplement, ce qui l'aura marqué, c'est notre côté humain, ouvert, honnête. Très transparent. On lui a pas promis des choses qu'on n'allait pas être capable de lui délivrer. On lui a pas promis non plus une place de numéro 1. Je pense qu'on a été extrêmement honnête sur quel était le deal, entre guillemets, quelles étaient les conditions de son arrivée, la construction qui était en cours. On a été en revanche extrêmement ambitieux dans le rôle qu'il pouvait jouer, bien évidemment en piste, mais également en dehors de la piste. Je pense qu'on a besoin d'un élément fédérateur, on a besoin d'une petite étincelle qui apporte un peu de peps dans l'ensemble. Et c'est ça finalement qu'on lui a proposé, et c'est ça finalement auquel il a adhéré.
Il n'a donc demandé aucune garantie, et vous ne lui avez donné aucune garantie?
Non, absolument pas. De toute façon, les garanties en Formule 1, ça n'existe pas. On a un contrat clair pour 2 ans. On a envie de faire au mieux, et après, advienne que pourra.
Vous avez terminé 4e du classement constructeur en 2018, une nette progression par rapport à 2017. Est-ce que attirer dans ses rangs un pilote comme Daniel Ricciardo, qui était dans l'écurie qui termine juste devant vous, est-ce que ça a un avantage particulier, et si oui, lequel?
Évidemment. De toute façon, quand on est 4e, on a l'ambition d'être 3e. On reste humble et on garde la tête sur les épaules, parce que le gap vis-à-vis de ce 3e était très important. En revanche, effectivement, ce qui peut nous renforcer et ce qui peut affaiblir nos adversaires, en particulier le 3e, c'est clair que c'est quelque chose qui nous aide. De la même façon que toute, je dirais, la stratégie qui est d'essayer de déséquilibrer quand même un petit peu Red Bull en leur retirant notre moteur, en les poussant vers un autre motoriste qui est en train de faire un très bon boulot. Alors ça, on ne maîtrise pas. Mais tout ça, ça fait partie quand même d'une certaine stratégie qui a commencé il y a quelques années et puis qui se poursuit. Après, en revanche, il faut que l'on fasse le meilleur moteur possible, la meilleure voiture possible pour être vraiment capable de poursuivre cette dynamique et essayer de poursuivre cette progression.
Daniel Ricciardo nous disait qu'il se sentait vieux en Formule 1 aujourd'hui, avec l'arrivée et l'émergence d'énormément de jeunes. Vous avez un line-up qui est plutôt expérimenté. Est-ce que c'est une volonté claire de votre part, parce que justement vous êtes en train de développer une voiture, essayer de ramener Renault au premier plan?
Oui, ça fait partie plutôt d'une volonté. Alors après, faut être aussi mesuré dans nos volontés, parce qu'on choisit pas toujours tout. Si j'avais voulu prendre un jeune de 17 ans, franchement, j'en avais pas là tout de suite non plus sous la main. Donc on a notre académie qui peut-être nous permettra un jour de sortir un talent très jeune, et j'espère qu'on aura le courage et l'intelligence de le faire, comme Red Bull a pu le faire avec Max Verstappen. Non, effectivement, comme on est en train d'essayer de gagner en maturité, qu'il faut qu'on aille très vite sur le développement, très vite sur le développement des équipes également, je pense que c'est bien de se retirer certains stress. de se retirer certaines difficultés et d'avoir un pilote de 29 ans, un pilote de 31 ans, chaque pilote a à peu près 150 Grands Prix, un qui a envie de se faire un podium parce qu'il n'a toujours pas eu, c'est Nico, hein, qui a gagné 7 Grands Prix. Ça nous donne réellement une force et ça nous permet, pour faire simple, de nous concentrer sur d'autres problèmes. Voilà, notre line-up de pilotes, il est au-dessus de tout soupçon, c'est certain. Il est rapide, il sera intelligent, il peut porter l'équipe. Nous, on peut se concentrer sur le reste. Prochaine étape, c'est le moteur. Viser l'excellence moteur, ça doit être un engagement très fort, une ambition, ça doit se réaliser. Le temps que ceci se fasse, ça donnera un peu de temps à Enstone à être capable de produire un châssis qui sera digne des meilleurs.
Daniel Ricciardo, est-ce que c'est le nouveau Fernando Alonso ? Est-ce que c'est lui qui est capable définitivement de ramener Renault dans les premières places ? Et de faire match avec Red Bull, avec Ferrari et Mercedes.
Alors, j'aimerais faire une réponse courte et dire oui, c'est l'ambition. En tout cas, il doit apporter cette ambition, cette confiance, cette énergie. Il est quand même moins jeune que l'était Fernando quand Fernando a rejoint Renault, hein, parce que il avait fait une saison, si ma mémoire est bonne, chez Minardi et ensuite rejoint Renault. C'est un profil un petit peu différent. En tout cas, c'est lui qui doit maintenir cette dynamique et je l'espère effectivement nous permettre de nous rapprocher des tout meilleurs, voire commencer à nous battre contre les tout meilleurs.
Voilà la première partie de l'entretien que Cyril Abitboul a accordé en exclusivité à Lucas Vinoit. On va y revenir dans un instant, Jean-Luc. On va également écouter Daniel Ricciardo. Jean-Luc, je te demandais tout à l'heure si Ricciardo pouvait faire passer un cap à Renault. On a entendu Cyril Abitboul et j'ai aussi envie de te poser la question inverse. Est-ce que Renault peut faire passer un cap à Ricciardo dans sa carrière personnelle ?
Alors, pour le moment, non, soyons clairs. Renault quand même a marqué 101 points de moins que le troisième au championnat constructeur l'an dernier, donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que le gap, effectivement, on écoutait Cyril il y a un instant parler des ambitions de Renault, il a raison de ne rien dire, parce que je rappelle la progression quand même, 2016, 8 points, 9e, bon, c'était un début, en 2017, 57 points, 6e, tout va bien, et puis ensuite 122 points, 4e. Bon, là on est sur un palier, c'est sûr qu'il vaut mieux le conserver, parce que ça va commencer comme ça, parce qu'il y a d'autres équipes qui progressent, naturellement, on y reviendra plus tard. Pour revenir à Ricciardo. Moi, je pense que pour l'instant, Ricciardo apporte plus à Renault que Renault ne peut apporter à Ricciardo, très, très sincèrement. Même si, on le sait, je pense que le moteur va être très proche maintenant des moteurs Mercedes et des moteurs Ferrari qui dominaient le championnat. L'inconnu, naturellement, c'est Honda. On ne sait pas quelle est la marge de progression de Honda avec Red Bull. Donc, c'est évidemment la troisième marche qui est en jeu. Parce que si la fiabilité n'est pas là pour le Honda, bah, évidemment, ça pourrait permettre à Renault d'accéder à cette troisième place, à condition que Red Bull ait beaucoup d'ennuis. J'en reviens à Ricciardo, puisque c'est ta question. Moi, à mon sens, si tu veux, c'est un pilote d'abord qui est vainqueur de Grand Prix. Ça, c'est important. Il en a remporté deux, je le rappelle, lors de la saison 2018. Et je rappelle quand même que le comportement de Red Bull à son égard a été parfois critiquable, notamment dans la deuxième moitié. Je ne suis pas certain que Daniel Ricciardo ait été aussi heureux chez Red Bull dans la deuxième moitié de saison qu'il a pu l'être avant.
Pour le dire clairement, la suspicion, c'était même que la voiture de Max Verstappen était largement favorisée et que dès qu'il y avait des améliorations, c'était sur la voiture du Néerlandais qu'elles étaient testées avant de l'être sur celle de l'Australien.
On n'a pas la langue de bois ici et surtout jamais. J'abonde dans ton sens. Il est clair qu'on a privilégié Verstappen chez Red Bull. D'ailleurs, c'était à mot couvert, hein, de chaque côté. On sait très bien que Christian Horner, effectivement, lui aussi se permet de critiquer les autres équipes, on va critiquer la sienne. Ricciardo n'a pas été servi comme il aurait dû, parce que bon, mise sur Verstappen, c'est peut-être normal, il est plus jeune, c'est un produit du sérail, etc. On a compris que Ricciardo était finalement un bon deuxième, et c'est ce qu'on lui demandait, et c'est pour ça qu'il part. Donc moi je pense que pour le moment, et je réponds une nouvelle fois à ta question, l'apport de Ricciardo chez Renault est extrêmement important en termes de confiance, et on a un véritable vainqueur de Grand Prix, et pourquoi pas un jour un champion du monde. Il a toutes les qualités, alors maintenant il faudra qu'il ait le matériel.
Écoutez justement Daniel Ricciardo, il est au micro de Fred Bonzon. Il évoque cette arrivée chez Renault et il veut s'inspirer d'un quintuple champion du monde, Lewis Hamilton.
Pour être honnête, voir ce que Lewis a fait lorsqu'il a rejoint Mercedes, c'est un peu ce que j'aimerais faire avec Renault. Il est une source d'inspiration de ce côté pour moi. Si je peux réaliser cela, ramener Renault sur le devant de la scène, dans les premières places de la grille, ou même tout simplement les aider à y parvenir, ce serait vraiment cool, et surtout quelque chose d'infiniment gratifiant.
Voilà, Daniel Ricciardo qui prend exemple sur Lewis Hamilton et bon, ouais, en même temps l'exemple est bon.
L'exemple est excellent évidemment parce que on se rappelle du départ de Lewis quand il a quitté McLaren pour aller chez Mercedes qui ne gagnait pas, et c'est vrai qu'on s'est tous dit, et là aussi je vais pas me dédouaner, on s'est tous dit oula, il prend un gros risque, mais bon, il se trouve que il avait bien mesuré la preuve les capacités de Mercedes à se mettre dans le coup, et puis lui est un fédérateur, et ça je suis désolé, mais dans une grande équipe, il y a pas de grande équipe sans grand pilote, et oui, Ricciardo peut être un fédérateur à sa manière, hein, évidemment, c'est pas un Lewis Hamilton, mais je pense que c'est quelqu'un qui a encore à démontrer beaucoup. Et je le dis, c'est un type qui est de la classe d'un champion du monde. Hein, il peut le devenir s'il a le matériel pour le faire.
13h19 sur RMC, sur RMC Sport News. Vous écoutez, vous regardez Motors tout de suite. La seconde partie de l'entretien exclusif que Cyril Abitbol, le patron de Renault, a accordé à Lucas Vinoy. Cette fois, il évoque la saison qu'il attend pour son équipe. Écoutez.
À l'aube de ce début de saison, est-ce que Cyril Abitbol dort bien ?
Alors je dors pas bien parce que j'ai une petite fille de quelques semaines, mais à part ça, je dors bien parce que je pense qu'on a fait un bon boulot, qu'il y a une bonne dynamique. En revanche, à l'arrivée en Australie, je pense que la pression va sacrément monter.
Justement, cette pression, on a posé la question à Nick Chester, qu'est-ce qui le motivait à venir à Enstone tous les matins malgré justement cette pression ? Vous, qu'est-ce qui vous motive tous les matins à vous lever, patron d'écurie, avec toute la pression que ça engage, mais aussi le bonheur du travail bien fait?
Le bonheur, il se trouve surtout, je dirais, sur l'aspect humain. Évidemment, il y a le résultat sportif, mais avant tout, c'est de voir toutes ces individualités qu'on a été chercher à droite, à gauche, qui composent l'équipe aujourd'hui et qui bossent ensemble. Et puis, quand ça délivre, c'est une extraordinaire satisfaction. Plus qu'une satisfaction, c'est une vraie fierté. C'est vrai que je suis fier de voir certains des collaborateurs, certaines des équipes produire des choses et avoir du plaisir à bosser ensemble. C'est pas encore le cas partout, hein. On est loin encore d'être dans un orchestre polyharmonique qui joue parfaitement bien. Donc il y a encore des choses à faire, il y aura encore des ajustements à l'organisation. Mais à chaque fois que localement j'ai une jolie harmonie qui se dégage, c'est un plaisir extraordinaire.
Qu'est-ce qui s'est passé là pendant cet hiver, entre le dernier Grand Prix à Abu Dhabi et les essais de pré-saison, et puis ensuite l'Australie? Est-ce que vous pouvez nous conter justement toute l'évolution et la préparation de la voiture?
L'évolution, la voiture, la préparation commence très tôt, hein. Elle commence l'été dernier côté châssis, elle commence encore plus tôt côté moteur. L'été dernier, on a arrêté de développer la voiture 2018, on a mis dans la soufflerie le modèle 2019. Avec en plus un changement de règlement aérodynamique qui a été confirmé très tardivement, des détails qui sont arrivés encore plus tardivement. Donc, en gros, quand on change de règlement aéro, on perd beaucoup de performance aéro, donc on essaye de la retrouver. On arrive, là, on sera, à mon avis, en Australie, pas très loin de notre niveau de fin de saison, mais c'est extrêmement compliqué. Quelques concepts également dans la voiture à pousser plus loin que l'année précédente. La suspension, le refroidissement sont des choses qui comptent énormément dans la Formule 1. Le poids, gagner de la masse également, et là-dessus, on a fait un très gros step, c'est important. Tout ce qui est centre de gravité, équilibre mécanique de la voiture. Côté moteur, encore une fois, c'est des délais, des temps d'écoulement beaucoup plus longs. Donc la jeunesse de ce projet moteur, elle remonte encore plus tôt. En revanche, c'est des confirmations. Le spec C que Red Bull a roulé en fin de saison, c'était le concept de ce moteur que l'on exploitera cette année, avec des choses qui ont été poussées. Avec, en gros, côté moteur, on comprend parfaitement ce qu'il faut faire. On est maintenant dans le temps d'exécution. C'est-à-dire que entre vouloir faire quelque chose, être capable de le faire, trouver toutes les solutions technologiques, toutes les briques technologiques qui vont nous permettre de le faire, ça prend un peu de temps, mais on est passé d'un « est-ce qu'on va savoir le faire » à un « quand est-ce qu'on va être capable de le faire ?» Et ça, c'est aussi très rassurant.
Vous pensez que au cours de la saison, le gap qu'il peut y avoir avec Mercedes et Ferrari au niveau moteur, Honda, c'est la grande inconnue, va pouvoir se réduire?
Tous les motoristes sont des inconnus quand même. En revanche, la seule chose que je peux affirmer aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu un hiver aussi fructueux sur la performance moteur. Il y a encore des choses à bien cadrer. Il y a la fiabilité à préserver également. La marge que l'on a faite, nous, est énorme. Maintenant, elle sera comparée à celle qu'ont fait les autres.
C'est ma dernière question, elle est claire. Renault, champion du monde, c'est pour quand?
C'est l'ambition, c'est une question de temps. On l'a toujours fait. À chaque fois qu'on a été en Formule 1, on a fini par être champion du monde. La feuille de route dit 2021, c'est déjà un gros objectif. Ça paraît encore loin pour certains. Je peux vous dire que 2021, le travail a commencé. On a un groupe de travail qui bosse sur 2021. J'ai eu la chance de voir les premiers prémices de cette voiture 2021. Ça donne envie d'être à 2021.
Donc rendez-vous en 2019 pour les prémices et rendez-vous en 2021 pour le titre alors.
Exactement.
Cyril Abitboul, entretien exclusif au micro de notre reporter Lucas Vinois. Jean-Luc, jusqu'où peut aller Renault cette saison à ton avis? Tu les vois situés comment?
Au moins se maintenir à la quatrième position, je vais pas prendre de risque, mais je l'ai dit, ça dépend naturellement de la performance du moteur Honda, ouais. Cyril Abitboul vient de le rappeler, qui va conditionner naturellement la performance de Red Bull, et quand je parle de performance, je parle d'endurance et de fiabilité naturellement. Alors, je rappelle une nouvelle fois qu'il y a quand même des règles aérodynamiques qui affectent cette année l'aileron avant, l'aileron arrière et également les barges-bords de manière à retrouver donc une certaine efficacité, notamment au moment des dépassements. Je ne pense pas que ça exerce finalement une influence considérable sur, on va dire, les positions des différentes équipes, parce que chacun a travaillé pour essayer de récupérer cette perte qu'on chiffrait d'ailleurs à 30% au départ en termes d'appui, et on sait qu'ils en ont au moins regagné la moitié. D'ailleurs, on s'en souvient, Fred nous l'a rappelé, Fred Vasseur nous l'a dit, bien sûr que les équipes ont pratiquement récupéré ce qu'on leur avait enlevé. Alors, je rebondis également sur ce que disait Cyril Abitboul à propos du règlement 2021. Le vrai problème, et là je vais remettre un pavé dans le jardin de nos amis de Liberty Media, c'est qu'on est incapable...
Ah, c'est même plus une pierre, toi tu mets le pavé carrément.
On est incapable pour le moment de savoir à quoi va ressembler la motorisation, pour parler de ça. Alors, on a bien compris que finalement, on n'allait pas changer grand-chose parce que les équipes dominantes et les quatre qui ont déjà investi des centaines de millions de dollars pour arriver à ce moteur-là, imposé depuis 2014, je le rappelle, qui est un échec. Et là aussi, je ne mâche pas mes mots. Mais oui, bien sûr que c'est un échec. Il est performant, on n'a pas dit le contraire. Mais enfin, il fait pas de bruit, il donne pas de sensation. Il est efficace, mais il est efficace, un peu comme un moteur électrique. C'est-à-dire que ça manque de passion, tout ça. Donc, si on travaille chez Renault, on manque de base sérieuse et on sait qu'avant le 30 juin, on l'a annoncé, Fred Vasseur nous l'a confirmé, il faudra qu'une décision soit prise. Alors moi, je peux déjà te dire que à 90%, ce sera un moteur un peu similaire à celui-là, avec effectivement un récupérateur d'énergie en moins. C'est vers ça qu'on se dirige pour baisser les coûts. Un certain nombre de pièces communes. Bon, ça veut dire que c'est une demi-mesure. Alors je pense que c'est pour ça, on doit savoir chez Renault, puisqu'on va s'opposer à des changements drastiques, radicaux de moteur, qu'on peut commencer à travailler là-dessus. Maintenant, l'aéro, ça c'est encore un autre problème. On sait que les réflexions sont menées sous l'égide de Ross Brawn, et on connaît sa compétence. Mais moi je m'inquiète aussi, Ross Brawn, il y a un moment maintenant, qu'il est au sein du groupe Liberty Media, il y a la FIA de l'autre côté, on doit aboutir à un règlement technique, et on ne voit rien venir à 3 ou 4 mois de l'échéance.
Pour revenir à Renault, la première semaine d'essai officielle débute demain à Barcelone, mais la Renault avec Daniel Ricciardo au volant, on l'a déjà vu rouler, 21 tours seulement, c'était hier.
C'est ça, c'était hier après-midi. En fait, Cyril Abitboul lui aussi avait fait de l'humour lors de la présentation de la machine et de l'équipe mardi dernier. Est-ce qu'on va la voir rouler avant? Tu sais, ils ont droit à un petit check-down pour filmer officiellement. Bon, en fait, ils l'ont utilisé, comme tu viens de le dire. Daniel Ricciardo a donc mis ses fesses officiellement dans une séance, malgré tout officielle, pas avec toutes les équipes, hier après-midi à Barcelone. Apparemment, au moins, on a fait 21 tour, c'est déjà ça de prix. Ce sera pas le cas de tout le monde.
Absolument. On en reparlera tout à l'heure avec Benoît Boutron dans Radio Paddock. 13h27 sur RMC et sur RMC Sport News. Motors se poursuit dans un instant. On parlera du rallye. Le rallye de Suède qui s'est achevé tout à l'heure en fin de matinée. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. 13h-14h. Motors. Louis Amar, Jean Lecroix.
13h29 sur RMC et sur RMC Sport News Motor sans direct. On est ensemble jusqu'à 14h. À 13h45, Radio Paddock pour tout savoir sur cette semaine de sport mécanique. À 14h, l'intégral sport avec Christophe Sessieux. Mais tout de suite, le rallye.
RMC Motors.
190, 150 mètres,
droitine, 320. Le briefing.
Benoît Boutron nous a rejoint. Salut Benoît.
Salut Louis, salut Lucky.
Salut à tous. Benoît.
Dans un instant, on accueille notre invité Stéphane Sarrazin pour évoquer le rallye de Suède qui s'est achevé en fin de matinée. Mais d'abord Benoît, les résultats de ce rallye de Suède.
Et un carton plein pour l'Estonien Ott Tänak. Coup double pour lui. Il remporte le rallye de Suède pour la première fois de sa carrière. Et il remporte la Power Stage. Donc il ne laisse aucun point à ses concurrents dans la route, dans la course au championnat du monde. Magnifique week-end pour l'Estonien et première victoire pour lui en Suède. Sébastien Loeb termine loin puisqu'il termine 7e et on rappelle que Sébastien Ogier a été disqualifié dès les premiers jours de course pour une sortie de route. Il avait mis du temps à repartir.
Dans le sable, dans la neige.
Bien sûr. Dans la neige de Suède. Et d'ailleurs, la neige de Suède qui a rarement réussi aux pilotes français. Ogier avait triomphé deux fois, je crois, 2015 et 2016. Une fois auparavant aussi. Loeb, une seule fois en 2004. C'est toujours compliqué d'aller gagner en Suède. Ottanak a su le faire, l'Estonien, c'est un beau coup pour lui. Le seul espoir de Sébastien Ogier, c'était d'aller chercher des points sur cette power stage. Malheureusement, non, il a été distancé. Et Ottanak a donc même remporté cette étape finale. Donc un magnifique week-end pour lui, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat du monde.
Ouais, c'est un sacré coup, Jean-Luc, pour Ottanak.
C'est un super coup, effectivement, et pour Toyota, hein, naturellement. Bon, on sait qu'il a le talent, on sait qu'il est extrêmement rapide, et on savait depuis la saison dernière qu'il pouvait se mêler à la lutte pour le titre, qu'on s'accorde tous à centrer, entre guillemets, sur Ogier, Neuville. Et ben, Ottanak, c'est le troisième larron, c'est une évidence, hein, là.
On peut même dire que si la logique avait été respectée l'an passé, s'il avait pas craqué dans les moments fatidiques, il aurait dû être sacré champion du monde.
Il aurait pu, en tout cas. Pour en parler, Jean-Luc, on accueille ton invité, pilote de Formule, pilote d'endurance, pilote de Formule 1, mais aussi pilote de rallye, notamment au Monte Carlo avec Hyundai. Bonjour Stéphane Sarrazin.
Bonjour messieurs.
Et merci d'être avec nous, Jean-Luc.
C'est avec plaisir.
Salut Stéphane, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui en direct dans Motors. Alors déjà, je voulais te féliciter pour ta performance au Monte Carlo avec ta propre structure, avec cette Hyundai. Louis vient de l'évoquer. Effectivement, tu peux nous raconter un peu cet engagement et ce que ça fait d'être à la fois pilote et team manager en quelque sorte.
Oui, en fait, j'ai monté ma structure rallye l'année dernière. Et là, nous commençons la deuxième saison et j'ai un soutien de Hyundai, ce qui m'a facilité les choses pour démarrer l'année dernière avec le programme officiel avec Jari Kunen en 2018. Et là, on continue à travailler ensemble et il était important d'être présent au Monte Carlo. C'est un rallye que j'apprécie énormément, un beau rallye. Et pour Hyundai, c'était bien aussi. Donc, on a fait 9 au général, 3 DR5 et une très belle performance dans l'ensemble.
Bah écoute, c'est absolument génial, oui, parce que l'année d'avant, malheureusement, t'avais eu quelques petits soucis. Alors, Louis le précisait, moi ce que j'aime beaucoup chez toi et chez un certain nombre d'autres pilotes, c'est effectivement cette polyvalence incroyable et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que dès qu'il y a un volant, des pédales et quatre roues, tu es capable d'aller très très vite. Tu as même évidemment participé à un Grand Prix de Formule 1, on s'en souvient, et brillamment. Je me rappelle que c'était un incident technique qui t'avait fait sortir. C'était au Brésil, hein, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Voilà. Ouais, tout à fait. Je veux commenter déjà en direct, tu vois. Donc, je me rappelle de ça parce que t'étais en train de faire une super performance en endurance, on l'a dit, avec un palmarès incroyable, avec plusieurs deuxièmes places aux 24 heures du Mans, pilote officiel Peugeot, Toyota. Alors tiens, une question toute bête, une question exprès de Béotien, qu'est-ce que tu préfères, le rallye, l'endurance, t'as touché un peu à tout, à d'autres disciplines, qu'est-ce que tu aimes?
C'est en fait, j'ai la chance de faire les deux, de faire le circuit avec le WEC, avec SMP et le rallye au plus haut niveau aussi. J'adore les deux disciplines. Ce que j'aime en fait, c'est que ça change. J'évite la routine et j'aime passer d'une voiture de rallye sur la terre ou sur l'asphalte. Après, j'arrive en circuit avec une voiture, il y a beaucoup plus de grip, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est top et je le fais à chaque fois avec plaisir. Et puis à chaque fois, je trouve des volants sympas. Donc ça me permet de m'éclater au long des saisons et là c'est reparti cette année pour faire une grosse saison encore, donc c'est top. Mais j'arrive pas à choisir entre le circuit ou le rallye. Il y a des points forts dans les deux disciplines. Donc ce que j'aime dans le circuit, c'est la perfection. On est toujours à la recherche du moindre dixième, le freinage le plus tardif, accélérer très tôt, mais être toujours très très précis. Et le rallye, ce qui est fabuleux, c'est l'adrénaline, parce qu'on fait les recos comme au Monte Carlo. Il a neigé entre les reconnaissances et la course, ce qui fait que ça n'avait plus rien à voir. Et là, c'est la confiance dans les notes, le copilote, les ouvreurs. Et c'est un travail d'équipe, mais au niveau feeling, adrénaline, en rallye, c'est quand même beaucoup plus élevé qu'en circuit, on va dire.
Eh oui, parce que l'environnement est évidemment naturel. Eh oui, il faut le rappeler. Puis on travaille en équipe. Tu l'as dit, non seulement l'équipe de course, naturellement les ingénieurs, mais aussi le copilote. Hein, donc il faut absolument se fier à lui. Par parenthèse, d'ailleurs, les automatismes pour un rallye comme celui-là, pour le Monte Carlo, ils viennent bien avec ton équipier.
Oui, bah on se connaît, ça fait des années qu'on roule ensemble, donc on s'entend très bien, on se connaît, il me connaît, il sait où j'envoie en année du rythme. Et puis à chaque fois, c'est ce qui est sympa au Monte Carlo, c'est qu'on part sur une spéciale qui a par exemple 5 km de goudron, 10 km de neige, c'est toujours varié. Et là, au niveau des sensations, on n'a aucun repère, on n'a pas de partiel, on n'a pas les gars devant ou derrière. Donc c'est vraiment au feeling entre le pilote et le copilote. Et c'est ce que j'adore aussi en fait, c'est vraiment la partie très excitante du rallye.
13h34, Stéphane Sarrazin est l'invité de Motors en direct sur RMC et sur RMC Sport News. Stéphane, on en vient à ce rallye de Suède qui s'est achevé ce matin par la victoire d'Ottanak. D'abord un mot sur cette victoire, est-ce qu'elle est méritée sur ce que vous avez vu tout au long de ce week-end, logique? Et puis, est-ce que c'est lui qui va être, d'après vous, le principal concurrent de Sébastien Ogier pour la course au titre mondial cette saison?
Bah pour moi, il est clair qu'il est monté en puissance. Déjà, quand il était équipier d'Auger chez Ford, il était déjà très vite. L'an dernier, il aurait pu avoir le titre, et puis il a fait quelques erreurs et quelques problèmes techniques, on va dire. Mais il est clairement, il est hallucinant. En Monte Carlo, il a survolé les chronos. Là en Suède, pareil, la Power Stage, il leur met 3 secondes. Il est hallucinant. Il est en confiance et pas trop d'erreurs. Je pense que clairement pour le titre, ça va être entre lui et Seb Ogier. Et Neuville, bien sûr, mais je pense que là, il est très, très, très fort.
On va rappeler que ton équipier, c'est Jacques-Julien Renucci, hein, qui est d'Alès. C'est important de le dire, ton complice, comme tu dis. Quel est ton programme? Alors, on va rester sur le rallye, et puis on reviendra à des questions, justement, sur la lutte pour le WRC. Quel est ton programme en rallye, Stéphane? Qu'est-ce que tu as prévu, ou tu vas décider un petit peu plus tard?
Bah, en fait, en rallye, rien de prévu pour le moment. J'ai mon équipe à faire tourner. La priorité, c'est que les pilotes roulent dans leur programme respectif. Moi, j'ai Sebring avec SMP en LMP1 dans 3 semaines. Et rallye, j'aimerais en faire un ou deux dans la saison avec Hyundai. On va essayer de viser quelques rallyes, ou en France ou en mondial. Mais c'est pas encore défini et on est en train d'en discuter.
Alors, on rappelle aussi que tu as été champion de France des rallyes, donc effectivement, à ta première tentative d'ailleurs, ta première tentative complète. Donc, au niveau des forces en présence, tu pilotais pour une Hyundai, justement. On a vu Hyundai recruter Sébastien Loeb, c'est vrai que comme un joker. Est-ce qu'en termes, justement, est-ce que ça peut jouer le trublion? Est-ce que au contraire, en termes de stratégie d'équipe par rapport aux constructeurs? Et on rappelle aussi que Michel Nandan a été remplacé, hein, juste à l'orée de cette saison, donc ce qui peut influer. Toi, tu as des rapport avec son remplaçant également, Stéphane?
Oui, je travaille avec André Adamo depuis 2016, toujours en R5, et oui, on se connaît très très bien, on travaille ensemble sur les programmes, et non, j'ai beaucoup de chance d'être proche d'un constructeur. Pour une équipe comme moi qui démarre, ça a été une grande chance, et je fais le développement de la Hyundai R5 depuis l'année dernière, donc on essaie de la faire progresser, de la mettre au plus haut niveau, parce que le niveau est très élevé entre les Skoda, les Volkswagen qui arrivent. Là, c'est 3 R5 aussi. Donc, c'est une belle bagarre. C'est pas en WRC, mais en WRC2. Et il y a aussi de quoi faire et un très bon niveau avec les pilotes.
Alors, j'en reviens donc à ma question concernant la lutte pour le WRC. Le recrutement de Sébastien Loeb, il t'a surpris, toi également, de voir Hyundai recruter en joker Sébastien, dont le but, on l'a bien compris, était d'enlever des points aux adversaires.
Ouais, c'est clair, non. Je pense que c'est évidemment une recrue de folie. Seb a tout gagné. Il a 9 titres. Ouais, c'est énorme. Et je pense qu'il ne peut qu'apporter à cette marque. En tout cas, pour le développement de l'auto. Et là, c'est un petit peu difficile les 2 premiers rallyes, on va dire, au niveau du rythme. Mais bon, les gars devant sont super affûtés. Ils roulent depuis des années. Lui a fait une coupure. Donc, on verra au fil des rallyes comment est-ce qu'il arrive à monter en régime et à retrouver les avant-postes, mais bon, c'est clair que ça va très très vite devant, et je pense qu'il manque de kilomètres en spécial face à ses concurrents directs, mais en tout cas chez Hyundai, il y a un très très bon niveau de pilote entre Neuville, Mikkelsen, Sordo. Ils ont de beaux équipages.
Alors toi qui pratiques justement le rallye, après on va passer aux autres disciplines et on va parler de Sebring, hein, aussi c'est une épreuve moi qui me tient beaucoup à cœur, effectivement qui est mythique. J'allais parler du niveau justement des équipages. Est-ce que tu crois qu'il y a encore à gagner? On voit que maintenant c'est une bataille à coup de dixièmes de seconde, peut-être bientôt de centièmes, à part bon les 3 secondes que Tanak a collé à tout le monde là dans la Super Stage, mais c'est exceptionnel. Hein. On voit que souvent les rallyes se terminent à quelques dixièmes. Ça a encore été le cas au Monte Carlo. Est-ce que tu penses que la marge de progression en rallye avec ces machines terriblement efficaces est encore possible, il y a encore à gratter?
Ça progresse chaque année en fait, avec le nouveau règlement ça fait un gros step, mais on voit quand même qu'entre Toyota, Hyundai et Citroën ça se joue dans un mouchoir, donc la FIA a fait du bon boulot et je pense que ça va progresser au fil de la saison. Tout le monde fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais en développement. Après, ce qui est beau, c'est qu'il y ait autant de constructeurs qui soient serrés comme ça. Puis on le voit aussi avec Lapi et Neuville, là, je crois qu'ils finissent à 2 secondes. Donc, c'est top pour les gens qui suivent ça.
Alors, on en vient au circuit, parce que tu as parlé de Sebring, effectivement, c'est dans 4 petites semaines maintenant. Alors ça, c'est un circuit à l'ancienne aussi, hein, on peut le dire, ça doit te plaire, parce que on peut dire qu'en matière de conditions de sécurité, on est loin des standards de la F1, avec notamment des plaques de raccord, puisqu'on rappelle que c'est un terrain d'aviation, hein, Sebring, et on se retrouve dans une ambiance des années 50-60 aux US, ça doit te plaire ça.
Bah, c'est classé monument historique, donc, apparemment le circuit n'a pas le droit d'être touché, donc c'est un coup de l'asphalte, un coup du béton, c'est très très bosselé, Et justement, on parlait avec notre équipe de chez SMP pour préparer Sebring, et j'aurais dit, mais tout ce que vous connaissez en Europe, c'est loin de tout ça, parce que Sebring, c'est vraiment, vraiment très, très bosselé, très difficile.
Et puis c'est vrai que c'est une épreuve qui se déroule en partie de jour, en partie de nuit. D'ailleurs, il y aura une autre épreuve du championnat américain à IMSA. Hein. C'est un peu une cohabitation là entre le vendredi et le samedi. Ça va être chaud dans le paddock, Stéphane.
Ouais, tout à fait. Deux championnats sur le même week-end. Nous, on va faire 1000 miles.
Ouais.
Et eux vont rester sur le standard, je crois, sur les 12 heures.
C'est ça.
Mais
c'est prévu comme ça.
Bon, nous, c'est déjà bien d'être à Sebring. C'est une course mythique. Là-bas, c'est comme les 24 heures du Mans. Il y a 150-200 spectateurs.
Ouais.
C'est la folie, il y a une ambiance incroyable. Et nous, pilotes, en tout cas, moi, j'adore rouler là-bas. C'est presque du rallye, on va dire.
Merci Stéphane Sarrazin d'avoir été avec nous dans Motors.
Merci.
Salut Stéphane.
À très bientôt. Merci. Sur RMC et sur RMC Sport News.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
<rire> 13h45 sur RMC et sur RMC Sport News Motors.
C'est le micro releveur.
Attends,
on fait de la mécanique dans Motors, mais il n'y a pas de raison.
Oui. Jusqu'à 14h. Il y a un micro qui traîne devant moi, qui est un peu bizarre, mais essayez d'arranger ça. Clairement, il vaut mieux que je touche plus à rien. Dans un quart d'heure, pour trouver Christophe Cessieux.
On ne fait pas le Dakar avec lui,
Amar.
Je suis pas sûr.
Alors, je vous déconseille. On a essayé de m'y envoyer deux fois. J'en suis revenu, mais j'y retournerai pas une troisième fois.
Limite.
Dans un quart d'heure, Christophe Cessieux est là pour l'Intégral Sport. Bon programme, notamment trois matchs de Ligue 1 qui débutent à 15h, Lille-Montpellier, Caen, Strasbourg et Bordeaux-Toulouse. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors. Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron, on va revenir sur le rallye de Suède. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais faisons le point complet sur les classements, les implications de la victoire d'Ottanak, etc.
On vous rappelle que c'est la première victoire en Suède pour Ottanak. Il a devancé Esa-Pekka Lappi et Thierry Neuville. Donc là aussi deux très bons pilotes, mais il a été énorme, Ottanak. Il a été beaucoup plus rapide que tous les autres tout le week-end, et il a même gagné la Power Stage. C'est sa première victoire depuis septembre. Il avait gagné en Turquie, ensuite il ne l'a plus gagné. C'est ce qui lui a coûté le titre de champion du monde, certainement, au bénéfice de Sébastien Ogier. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il prend la tête du championnat du monde. C'est la première fois de sa carrière. Il n'avait jamais été leader du championnat du monde. Bah, c'est fait pour Ottanak, qui est désormais à 47 points au championnat. Thierry Neuville est deuxième avec 40 points. Ogier, troisième avec 31 points. On rappelle qu'il a vécu un week-end très très compliqué. Ouais. Il a été disqualifié dès le premier jour de course, il avait un espoir en Power Stage, il a pris 2 points Sébastien Ogier en Power Stage, je vous donne
c'est
le classement.
Ça peut rester à la fin.
Et oui, 2 points ça compte, effectivement. C'est donc Ottanak qui gagne cette Power Stage, devant Thierry Neuville, Elfyn Evans termine 3e, Ogier 4e et Lappi termine 5e. Et juste au niveau du classement général, Sébastien Loeb, qui était de retour lui aussi en Suède, termine finalement 7e de ce rallye de Suède.
Et tu vois, si je peux me permettre, Neuville a peut-être manqué un peu le coche dans la mesure où effectivement,
c'est l'histoire de sa vie,
s'est pris les pieds dans le tapis ou dans la neige. Et ben là, il aurait pu profiter pleinement. Bon, il monte sur le podium, effectivement, il prend des points, mais il réussit pas le carton plein comme peut-être il aurait dû. Il aurait dû passer la surmultiplie, il a dû essayer évidemment, mais là, il lui manque un petit quelque chose pour profiter des malheurs d'Ogier, me semble-t-il.
Après, c'est un mini miracle, parce que je sais pas si vous avez vu cette image en pleine ligne droite sur la journée d'hier. C'est il a fait un tête-à-queue en heurtant la neige sur le côté, il a réussi à repartir directement.
Neige,
il a eu énormément de réussite.
Il a perdu un minimum de temps.
Voilà, ça l'a pas pénalisé, mais c'était un miracle pour lui en tout cas.
Alors, je me permets pas de critiquer Thierry Neuville. Là aussi, il faut attention.
Bien sûr.
Peut juste se dire regretter pour lui, parce qu'effectivement, comme il y a eu ce faux pas de Seb Ogier qui lui s'est mis dans la neige, il y avait pas de spectateurs autour. C'est pour ça qu'il a perdu autant de temps. Il a perdu 25 minutes, le temps d'aller chercher des gens pour l'aider. La voiture n'était pas abîmée, hein. Mais bon.
Juste dernière question. Tu penses que c'est lié au fait qu'il a ouvert la piste comme il avait gagné le Grand Prix précédent?
Indubitablement, ça en fait partie. Ouais. Oui, c'est un élément à prendre en considération. Alors, il a justement l'élégance de ne pas l'évoquer, mais c'est clair que c'est lui qui balaye la piste.
Ouais.
Et c'est vrai que dans ce cas-là, voilà, la couche de neige quand elle est enlevée, la neige fraîche, et ben c'est un petit peu meilleur après. On le sait bien. D'ailleurs, on le voit quand les pilotes de talent, c'était le cas de Latvala aussi qui a été retardé, se retrouvent derrière, ils font des perfs remarquables.
Exactement.
Voilà.
Après, il nous l'avait dit, il était là il y a 15 jours dans Motors, Sébastien Ogier, il nous expliquait que ça allait être très difficile d'ouvrir la route sur le terrain.
suédois.
Absolument.
Et à demi-mot, en creux, on comprenait que bon, c'était pas son objectif principal de la saison, ce rallye.
Mais il a eu l'élégance de ne pas le souligner.
Absolument, pas le souligner.
Chacun en tire les conclusions. Bah, nous, on est là pour ça.
Ça n'est pas servi comme excuse, exactement.
Ouais. La moto, Benoît.
Le moto GP, oui, ça nous manque, hein. On est impatients, évidemment. Plus là, on a eu les essais. Donc, forcément, ça se rapproche pour le moto GP. Et on a eu un invité exceptionnel, Johan Zarco, qui est passé dans nos locaux il y a quelques jours. C'était vendredi soir dans Breaking Sport sur RMC Sport 1. Il a fait le bilan un petit peu de ses trois jours d'essai à Sepang, des résultats mitigés avec KTM, sa nouvelle écurie, puisque si on cumule les temps, il termine à la 15e place de la grille. C'est pas terrible pour Johan Zarco, mais vous allez l'entendre, il sait qu'il aura besoin de temps en fait pour rivaliser avec les autres cadors du paddock, hein, évidemment les Rossi, les Marquez, les Lorenzo, mais il pense qu'il pourra pourquoi pas rivaliser dans quelques semaines voire quelques mois, et surtout, il est très fier d'être désormais un pilote de moto d'usine.
C'est la course des champions, puisque Marc Marquez, 7 fois champion du monde, Valentino Rossi, 9 fois champion du monde, Jorge Lorenzo, 5 fois, je crois, moi, 2 fois. Il y a beaucoup de champions et avec aussi, ils ont beaucoup d'expérience et ils ont leur moto avec leur équipe. Et moi, je suis en train de le construire. Je me suis vraiment bien avec mon équipe. Maintenant, on construit notre moto et après, on pourra vraiment se battre ensemble.
Jean-Luc, ce serait quoi une bonne première saison pour Johan Zarco ?
Écoute, j'ai envie de te dire qu'il faudrait qu'il soit à peu près au niveau de ce qu'il a fait déjà en 2018, c'est-à-dire qu'on rappelle qu'il a quand même signé une pole, qu'il a été dans le coup notamment la première moitié de la saison, avant de perdre un petit peu pied, semble-t-il, parce qu'il y a moins confiance dans le train avant, enfin pas revenir sur le détail. À mon sens, c'est une trajectoire qui va être ascendante parce que c'est un metteur au point, hein, Johan Zarco. Oui. Il découvre une nouvelle usine, comme il l'a dit, et c'est quand même important. On sait que KTM met vraiment les moyens pour se mettre au niveau des meilleurs, c'est-à-dire de Honda, de Ducati, évidemment, de Yamaha et de Suzuki. Je pense qu'on va avoir une courbe ascendante. Écoute, s'il pouvait terminer un Grand Prix sur un podium avant la fin de la saison, ce serait formidable. Il est parfaitement capable de le faire, je le pense, avec quelques circonstances de course. Mmh. Donc voilà, l'ambition, c'est de finir régulièrement, on va dire, sur la grille dans le top 10, ce qui sera pas évident puisque tu viens de le souligner, sur la grille, et puis après en course, comme effectivement c'est un bon finisseur, c'est un pilote solide, quand il aura confiance dans son train avant, parce que c'est toujours la clé pour un pilote moto, je pense qu'il va effectivement faire un bond en performance. Laissons lui aller les 4-5 premiers grands prix peut-être pour continuer à travailler. Puis je rappelle qu'il y a l'équipe Tech 3, hein, d'Hervé Poncharal, qu'on a souvent dans l'émission également, qui est équipée de KTM. Donc il y aura 4 machines pour développer, et ça c'est important, hein. Vraiment le retour pour les ingénieurs, bien c'est sûr. Extrêmement important.
Le MotoGP, c'est le 10 mars, hein, au Qatar, on joue la course évidemment sur le Grand Prix de Losail. D'ailleurs, on reste dans la moto avec Jorge Lorenzo qui a eu beaucoup de déclarations cette semaine. Vous le savez, il a été blessé au scaphoïde, hein, une blessure
une
très
embêtante,
une chute bête en plus,
à l'entraînement.
Et une blessure très embêtante pour un pilote moto puisque c'est un os juste au-dessus du poignet, hein, c'est ça, Jean-Luc.
Ouais, c'est le petit os qui est au milieu, qui est fortement vascularisé, comme on dit. Et le problème, c'est en appui. Or, peut-être on l'ignore. Mais quand on voit les images au ralenti des pilotes moto qui sont obligés de tirer et au freinage, donc ça peut faire non seulement très très mal, mais en plus si ça ne se ressoute pas correctement, après on le traîne tout le temps.
Oui, parce que évidemment, juste pardon, maintenant c'est presque pas la zone, mais une des zones qui est les plus sollicitées au cours d'un Grand Prix. Ce muscle-là, c'est ce geste-là,
et les muscles des avant-bras, on en a souvent parlé, mais ça c'est un vrai traumatisme chez les pilotes moto.
Le syndrome des loges. Et voilà, comme il y a peu de mouvement quand le pilote est sur sa machine, bien les muscles gonflent, effectivement, viennent remplir totalement, et c'est l'enveloppe qui pénalise en fait. Le sang n'arrive plus à circuler correctement, donc c'est le fameux syndrome des loges. Donc on est obligé de fendre carrément l'enveloppe pour permettre aux muscles. C'est spécifique à la moto, ça.
Exactement. Jorge Lorenzo, qui est très content d'avoir signé chez Honda, il a parlé justement de sa fin de carrière. Il aura bientôt 32 ans. Il est entré donc avec ce nouveau challenge chez Honda. Il a dit que ça pourrait être son dernier team, sa dernière écurie. En fait, il ne se voit pas faire une carrière à la Rossi, aller jusqu'à 40 ans. Et je vais vous lire ses déclats. Il a dit « Quand j'imagine ma retraite, d'une certaine manière, je me sens heureux et soulagé, car je ne sentirai plus la pression, je ne me blesserai plus. » Forcément, c'est un peu comme un skieur. Il y a le traumatisme des blessures qui s'accumulent, les épaules, les poignets, etc. Les frayeurs qu'ils peuvent se faire. Et il a déclaré aussi qu'il avait eu très peur chez Ducati parce qu'il n'avait pas de proposition sur la table. Et Honda est arrivé au bon moment puisqu'il était à deux doigts d'arrêter sa carrière. Et il a dit que Honda était un bon challenge pour lui. À la fin de la saison 2020, c'est la fin de son contrat. Il aura 34 ans et pour l'instant, il ne se voit pas aller au-delà. On verra comment ça se passe chez Honda. Il faudra voir la cohabitation évidemment avec Marc Marquez. Mais mais Jorge Lorenzo pense déjà à la fin de carrière.
Elle va être fantastique, cette cohabitation. De toute façon, ouais, on l'attend tous.
On aussi va avoir une saison géniale. En MotoGP,
génial, absolument.
Et en Formule 1 aussi, mais en MotoGP.
Naturellement. Ouais. Non, parce qu'il y a plein de challenges à chaque fois. Il y a des nouveautés. Mmh. Et là, c'est vrai que Jorge Lorenzo, dont on rappelle, Jean-Claude Ogal nous disait la semaine dernière que c'est un des pilotes que les pilotes eux-mêmes apprécient parce qu'il a un style de pilotage absolument magnifique. Christian Sarron est également du même avis. Enfin, ils sont très nombreux à dire Lorenzo, c'est celui qui a le style le plus pur.
On aime ou on n'aime pas.
Mais après, le personnage.
Il est clivant.
Ça, c'est autre chose. Il est clivant. Et effectivement, on va voir la cohabitation dont tu en parlais avec Marc Marquez, parce qu'il arrive, je croyais que tu allais dire ça, chez Honda, mais surtout chez Marc Marquez. Oui. Et là, je peux te dire que ça va être... Alors, ils peuvent se pousser, hein, les deux. Ils peuvent se pousser, et au contraire, permettre à Honda d'aller plus loin, puisqu'il faut bien reconnaître que Dani Pedrosa, ces dernières saisons, n'y était plus trop. On a beaucoup de respect pour ce pilote aussi, mais elle n'y était plus trop. Puis 34 ans, ce qu'évoquait Lorenzo, pour un pilote à part Rossi, qui a fêté ses 40 ans hier.
Et voilà, c'était l'anniversaire de Valentino Rossi. Il s'appelle Valentino, quelques jours après la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Il fête son anniversaire. 40 ans, donc Valentino Rossi, la légende de son sport.
Et oui.
Valentino qui continue, hein, en tout cas, il fera cette saison. On parle déjà de la saison prochaine, peut-être pour lui prolonger son contrat.
Alors normalement, il a signé jusqu'à fin 2020.
Et
lui dit, quand on me demande si je vais arrêter au terme du contrat Yamaha, il dit, je n'en suis pas certain. Ça dépend comment je me comporte.
Et alors, pourquoi, Jean-Luc, il y a ce fantasme pour Valentino Rossi, ce dixième titre de championnat.
Écoute, je pense que c'est une motivation, mais extraordinaire pour lui. Alors, il a évoqué dans sa carrière en 2006, c'est pas
lui, ils sont pas l'usure.
Non.
C'est ça qui est fou.
Écoute, il sent pas l'usure. Il a peut-être un tout petit peu moins, je dirais, de performance pure. Je vais te permettre de le dire.
Oui,
mais il compense tellement en course. Il est capable de remonter, même s'il est sur la deuxième ligne, voire la troisième de la grille de départ. En course, il est vraiment, c'est un Ricardo ou l'inverse. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable d'exploiter les moindres possibilités de sa machine. Et je dirais que s'il a toujours l'envie, pour moi, il continuera.
Pour grossir le trait, en regardant les différents Grands Prix de MotoGP, et il est toujours très fort lorsque les conditions sont très difficile. C'est-à-dire, c'est pas en pointe de vitesse qui fait la différence, Valentino Rossi. En revanche, dès qu'il y a de la pluie, dès que c'est vraiment de la moto avec de grandes parties techniques, là, il exprime son talent et là, on retrouve le pilote de légende qu'il est.
Et puis, il était en lice pour le titre de champion du monde, jusqu'au terme de la saison. Ouais. Et par rapport à Vinales, certes, Vinales a remporté une victoire l'an dernier, une seule pour Yamaha, mais la machine n'était pas au niveau. Yamaha l'a reconnu. D'ailleurs, ça coûtait la tête de son responsable, du team manager. Donc, on l'a remplacé. Donc, moi, je pense que Valentino Rossi, avec une machine qui lui convient et qui est performante, non seulement il est capable de gagner les Grands Prix, mais peut-être de remporter ce dixième titre qui lui échappe. Bah oui, ce serait génial. Ça lui a échappé en 2015 aussi, on s'en souvient, au dernier Grand Prix, comme en 2006.
C'est vrai.
Benoît, on termine avec de la Formule.
Oui, un petit mot de Formule 1. Je sais pas si la nuit dernière, Jean-Luc adore cette discipline.
Évidemment, on n'allait pas se passer
ça. La victoire de Luca di Grassi, donc au Grand Prix de Mexico. Un Grand Prix assez sympa, puisque il y a eu une panne d'électricité pour son principal concurrent, Wehrlein.
Pourtant, il y a des gros groupes, qui fument dans le paddock pour charger les batteries.
C'est arrivé à Wehrlein, et du coup, victoire de di Grassi, qui a dit que c'était la plus belle course de sa carrière en Formule 1. Voilà, il était très content, puisqu'il l'a doublé vraiment au dernier virage, donc il y a eu pas mal de spectacles. On peut noter également les premiers points inscrits par Felipe Massa, ancien pilote de Formule 1. Bon, il a terminé 8e, mais en tout cas, il débloque son compteur en Formule 1. Et juste vous rappeler le classement général, c'est le Belge Jérôme D'Ambrosio qui est en tête, devant Félix Dacosta et Sam Bird.
Jean-Luc, un petit commentaire peut-être, ou tu passes ton tour?
Non, écoute, je vais quand même répondre.
Allez, t'as 20 secondes.
Respect pour les pilotes, toujours pareil, j'en reviens, parce que là, il y a rien à dire.
Même pour Massa?
Il va s'y mettre. C'est un pilotage qui est totalement différent, en fait. Hein. Et c'est bien ça le problème, d'ailleurs, totalement différent. Parce qu'alors là, on parle de gestion en Formule 1. Alors là, c'est uniquement de la gestion où pratiquement, il n'y a pratiquement jamais d'attaque, puisqu'il faut gérer cette batterie qui est censée leur permettre de terminer la course, parfois. Enfin, pas toujours.
13h58 sur RMC et sur RMC Sport News. Merci beaucoup, Jean-Luc Roy.
C'est toujours un plaisir.
À la semaine prochaine dans Motors. Benoît, tu ne bouges pas.
Salut
Jean-Luc. Dans l'Intégral Sport, l'Intégral Sport présenté par Christophe Cessieux, avec notamment 3 matchs de Ligue 1 qui débutent dans une heure et la suite de Grenoble-La Rochelle en top 14. Nous, on se retrouve à 16h sur RMC. À tout à l'heure.
RMC Motors avec Motorsport TV.